Un enlèvement d'enfant est considéré comme un rapt parental international lorsqu'un parent emmène son enfant dans un autre pays que celui où il réside habituellement, sans avoir reçu l'autorisation légale de l'autre parent. C'est ce qui est arrivé à Nancy André. Son mari était libanais et quand le couple se sépare, il décide de rentrer dans son pays d'origine. Le problème est qu'il emmène avec lui leurs 6 enfants et depuis, elle ne les a plus jamais revus. C'était il y a presque 7 ans. Elle est aujourd'hui la présidente de l'association Solidarité Rapt Parental. Elle nous confie ce que ressent un parent victime.
Qu'est-ce qu'un parent qui est victime de rapt parental? Eh bien, qu'est-ce qu'il ressent? Eh bien, moi, je me ressens comme quelqu'un dans une prison sans barreaux. On se sent tout seul, on se sent vraiment incompris parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais l'enfant, il est quand même bien, il est avec un des deux parents. » Mais non, ce n'est pas vrai parce qu'on a amputé l'enfant d'une partie de sa personnalité et de son être.
Du jour au lendemain, les parents se retrouvent face à l'inconnu. Ils se sentent souvent seuls et ne savent pas comment réagir ou vers qui se tourner. En Belgique, la fondation la plus connue au niveau international est Child Focus. Elle essaie de retrouver les enfants enlevés et dirige les parents vers les autorités compétentes. Nous avons rencontré Hilde Demaret qui s'occupe de l'étude et de la prévention à Child Focus. Elle nous explique ce qui intéresse avant tout cette fondation.
Il est très important de savoir que Child Focus ne travaille pas pour le parent qui nous appelle. Nous travaillons pour l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant, et nous essayons toujours de rester neutres vis-à-vis des deux parents. Donc nous ne sommes pas non plus l'avocat de cette personne. L'accord à l'amiable est pour nous quelque chose qui est très important et que nous allons toujours essayer de promouvoir. Et la médiation peut être un outil là-dedans. Donc c'est un rôle que Child Focus joue là-dedans, de guider le parent dans ses démarches. Ce sont des choses que l'autorité centrale pourrait faire, mais c'est un service qui a beaucoup à faire, donc ils n'ont pas toujours beaucoup le temps pour expliquer tout 10 fois aux parents.
Hilde Demaret fait référence au service public fédéral de la justice et des affaires étrangères, qui s'occupe aussi des enlèvements d'enfants au niveau international. C'est aussi une des solutions que peut choisir le parent victime. Mais quelques problèmes y sont liés. Nous avons tenté d'appeler ce numéro et il est difficilement joignable. Après plusieurs tentatives, quelqu'un a enfin décroché. Ce service est également fermé le week-end et durant les vacances. Et c'est malheureusement à ce moment-là qu'ont lieu les rapts parentaux. Au niveau international, les gouvernements ont quand même réagi face à ce problème. Il existe des conventions et des règlements. On peut citer parmi eux la Convention de La Haye qui a été signée par 74 pays et qui date de 1980. Elle est renforcée au niveau européen par le règlement de Bruxelles 2 bis qui, lui, date de 2005. Selon ces textes, le parent victime est protégé par la loi en cas de rapt parental. Mais ces textes dépassent-ils vraiment leur statut de texte? C'est Sylvia Faith, une avocate spécialisée dans le droit international familial privé qui nous répond. Elle prend l'exemple de la Convention de La Haye.
Cette convention prévoit au niveau international le retour immédiat de l'enfant. Donc si on est dans un de ces États qui a ratifié cette convention, normalement le retour doit avoir lieu relativement facilement. S'il y a un déplacement, par exemple, de la Belgique vers la France, le juge français ne doit pas voir si l'enfant serait mieux, imaginons par hypothèse, avec le parent rapteur, ou s'il serait mieux de rentrer en son pays d'origine. Ce n'est pas ça la question. Le juge doit simplement constater qu'il y a un déplacement illicite et renvoyer l'enfant. Le problème, c'est qu'il y a toujours en droit, et surtout en droit international privé, une différence entre la théorie et ensuite l'application concrète faite par un juge. En pratique, ça peut durer beaucoup plus longtemps, parce que le parent peut arguer que l'enfant serait en danger s'il revient, et alors les juges font parfois des enquêtes, ce qui peut prendre un peu plus de temps. Il y a aussi des problèmes d'arriérés judiciaires.
Lorsqu'un parent est reconnu coupable d'un rapt parental, il peut aussi être condamné à une peine de prison. Mais est-ce vraiment ce que demande l'autre parent?
Depuis le début, j'ai fait quand même confiance à la justice.
Nancy André.
On m'a dit, ne vous en faites pas, on va taxer votre mari, on va lui faire ça, on va lui faire payer des astreintes, on va même lui donner peut-être une peine de prison, on va faire tout ça. Moi, je n'ai jamais demandé tout ça. Hein. Moi, je veux mes enfants. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui nous donne vraiment l'espoir de revoir nos enfants.
Pour illustrer le problème d'un parent face à une justice souvent incomprise, nous nous sommes rendus chez Sabine van der Elst. Son cas particulier montre les problèmes qu'elle a rencontrés avec l'Allemagne, un pays pourtant européen et qui a signé la Convention de La Haye et Bruxelles 2 bis. Lorsqu'elle se sépare de son mari allemand, Sabine obtient la garde de leur petite fille Maëlys. Un jour, l'ex-mari qui vit en Allemagne décide de ne pas la renvoyer chez sa mère. Il demande immédiatement la garde de sa petite fille à l'Allemagne et l'obtient sans problème. Et pourtant, la justice de ce pays n'a jamais convoqué la mère de l'enfant. Sabine se retrouve alors face à une justice allemande qu'elle ne comprend pas et de laquelle elle se sent exclue depuis plus de 6 ans.
Ils reprennent les enfants chez eux, souvent à la suite d'un voyage de vacances ou quelque chose comme ça. Et du jour au lendemain, vu que l'enfant est de sang allemand, sur territoire allemand, il devient le bien national. Et en fait, vous, en tant que parent étranger, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes pas reconnu. Donc vous avez le droit d'être humilié, de ne pas être convoqué à des tribunaux, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Par contre, un jour, vous apprenez qu'il y a une expertise psychiatrique sur vous, vous ne savez même pas par qui, vous n'avez jamais vu la personne. Après, vous apprendrez que l'expertise psychiatrique n'était pas faite par un psychiatre, mais par un officier d'un bureau quelconque. Vous allez devoir payer des frais de justice, vous n'êtes pas reconnu, vous n'avez pas le droit à l'aide juridique, même si votre salaire est minime.
À quelles institutions vous avez eu affaire et les problèmes au niveau de ces institutions?
Alors, le gros problème, c'est le Jugendamt. Donc, Jugend, ça veut dire jeunesse, Amt, ça veut dire bureau. L'enfant, en Allemagne, n'est pas représenté par 2 parents, par un père et une mère, comme partout ailleurs. Il est représenté par 3 parents, le Jugendamt étant le 3e parent et celui qui a la plus grande puissance.
Le parent victime se sent donc souvent déboussolé. Et les démarches sont souvent longues. Très longue. Et il faut continuer à payer les avocats, mais aussi les traducteurs des décisions de justice. Le parent victime se retrouve donc dans cette machine infernale. Il se sent complètement perdu et seul. Surtout si, et cela arrive, cela fait des années qu'il se bat et qu'il ne voit malheureusement aucune solution se profiler. Pour aider ces personnes, il existe des associations créées par et pour des parents qui connaissent ce même problème. C'est le cas de l'association SOS Rapt Parentaux de Sultana Kuman. Nous l'avons rencontrée dans l'école où elle travaille. Elle nous explique le but de son association et leur point de vue sur la situation actuelle.
Nous sommes une association donc de parents victimes. Donc, comme je vous disais, nous ne sommes pas des pros, nous ne sommes pas avocats, nous ne sommes pas psy, nous avons tous nos professions sur le côté. On apporte notre vécu. Donc nos réunions, c'est un échange où les parents peuvent raconter leur drame, leur vécu, ce qu'ils vivent, parce qu'il y a des fois des choses tellement abracadabrantes que seul un parent qui vit la même chose peut le comprendre. Et il est difficile de pouvoir en parler à l'extérieur sans être pris pour... sans se faire passer pour quelqu'un peut-être d'anormal. Et donc, le but de l'association, c'est, je dirais, de faire profiter un peu de nos expériences et de nos vécus aux parents qui vivent la même chose, leur permettre de gagner du temps, parce qu'on ne sait pas toujours à quelle porte aller toquer. Nous, ce que nous pensons, ce n'est pas les conventions qui vont pouvoir régler cette problématique, mais plutôt un code de la famille, je dirais, pour commencer déjà au niveau européen, que les 27 se mettent déjà d'accord à ce niveau-là. Et ce serait aussi déjà alors un message pas mal vis-à-vis des pays extérieurs à l'Union européenne. Mais bon, c'est peut-être utopiste.
Après avoir compris les différentes démarches suivies par les parents victimes de raptes parentaux, nous nous sommes posé une question. Mais comment un parent parvient-il à un acte aussi extrême? Olivier lui-même nous répond. C'est un père qui connaît le sujet car ses enfants ont été enlevés par leur mère pendant plusieurs années au Kenya. Aujourd'hui, grâce à son expérience, il mène des recherches sur les raptes parentaux.
Ces fauteuils grincent, j'essaie de faire un peu attention. À un moment donné, le juge tranche. Et les raptes parentaux interviennent bien souvent après ce moment-là, après le moment où une décision a été prise. Que ce soit une décision par accord entre parents, que ce soit une décision un peu imposée par l'un, ou que ce soit une décision de justice. L'aspect insupportable de la décision pour l'un des parents, que ce soit le papa ou la maman, qui en viendrait à se dire « c'est tellement insupportable pour moi que je prends le risque, bien souvent relativement conscient, pas toujours très conscient, je prends le risque soit de retenir les enfants à l'étranger, soit de les emmener vers l'étranger. » Et ce risque-là, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable pour la société, pour aussi pour l'enfant, pour l'autre parent, parce que c'est une forme de fuite en avant. Ayant commis cet acte-là, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. Dans cette fuite en avant, un parent a été quelque part contraint, par son propre fonctionnement, a été contraint de monter Les enfants contre l'autre parent, ce qu'on appelle souvent un processus d'aliénation parentale, où pour finir, l'enfant lui-même, en son propre nom, se met à dénigrer l'autre parent. Dans les situations où un parent enlève l'enfant, il est amené bien souvent à dénigrer l'autre parent, et il peut le faire de façon verbale, il peut le faire de façon non-verbale. Une façon de le faire de façon non-verbale, c'est par exemple passer avec l'enfant ou les enfants devant l'ambassade de Belgique, si les enfants étaient enlevés à partir de la Belgique, et cracher par terre en passant devant l'ambassade. On baisse la fenêtre, on crache par terre et on continue. C'est extrêmement puissant parce que l'enfant a cette caractéristique et cette capacité de se construire un monde imaginaire à partir de choses qu'il comprend comme il comprend. Ça peut être des choses dites aussi. J'ai dû m'enfuir, on doit s'enfuir parce qu'ils veulent tous me mettre en prison. Et on va se cacher un peu, comme ça on sera en sécurité.
En cas d'aliénation parentale, l'enfant vit donc dans un univers où l'autre parent n'a plus sa place. Et lorsqu'un retour est possible, il doit réapprendre à aimer ce parent et ce pays dont il a été coupé pendant de si longues années.
À travers les témoignages, il apparaît que ni la justice ni les conventions ne semblent satisfaire les parents. Mais alors, comment faudrait-il agir ?
Si possible, préventivement.
Des séances d'information sur la prévention.
Dans un cadre de prévention.
Un rôle de prévention.
Un cas de rapt parental, c'est d'abord un couple qui se déchire. Et donc la prévention pourrait permettre d'apaiser les choses avant qu'elles n'empirent. Parce qu'avant tout, le souhait d'un père comme d'une mère, c'est d'être auprès de son enfant.